Nous célébrons la résurrection de Jésus. Il est vivant, ça c'est vraiment une joie. C'est bon de réaliser ça, et c'est quelque chose qui nous aide à bien réaliser qu'il est vivant. C'est aussi si on a bien réalisé qu'il est mort. Et puis vendredi, j'ai eu le privilège de prêcher aux jeunes, et j'ai pas mâché mes mots pour leur expliquer, leur faire comprendre la souffrance de Jésus. Quel moment terrible, quel moment de ténèbres. La Bible dit, hein, entre midi et 3 heures, le ciel s'est obscurci. Et c'est pas juste le ciel, mais finalement c'est tout qui était sombre. Vous pouvez imaginer un petit peu les disciples qui aimaient Jésus, les femmes qui étaient là, qui connaissaient Jésus, se dire, c'était donc vrai, enfin, c'est vraiment arrivé, c'est fini. Pourtant il était super ce prophète. Ah, qu'est-ce qu'on a vécu des temps incroyables avec lui, des temps de miracles. C'est fini. Il va falloir s'habituer à vivre sans lui. Bon, il nous reste des bons souvenirs, c'est vrai, mais c'est fini. Je pense qu'ils avaient beaucoup de peine à imaginer ça. Et puis, ces femmes restent actives. Le samedi, elles préparent des aromates. Et puis, le dimanche, ces femmes vont au tombeau. Elles découvrent le tombeau vide. Puis là, c'est tout le contraste entre un ciel obscurci le vendredi, puis ce ciel bleu le dimanche. La vie a triomphé. Waouh ! L'espoir renaît. La tristesse cède la place à la joie. Ça, c'est magnifique. L'histoire n'est pas finie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, certainement, mais sans le savoir, un film qui était en fait une tragédie. Hein, vous savez, des fois, c'est des films d'action, c'est des films romantiques. Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur un film tragique sans que je le sache. Quand on arrive au bout du film, non, mais c'est pas possible. Ça ne va pas s'arrêter là, quand même. Il manque un bout. Moi, c'est les seuls films où je regarde le générique. Je me dis toujours, peut-être il y aura encore quelque chose. On attend souvent une happy end, n'est-ce pas? C'est vrai. Bah, la bonne nouvelle, c'est que notre héros à nous, Jésus, lui, il est ressuscité. L'histoire continue. Il a vaincu la mort. Il faut bien imaginer qu'il y a eu un réel combat dans la mort. Ce n'est pas juste, il est mort et puis voilà, et puis il est revenu à la vie. Non, il y a eu une lutte. Il y a eu un combat et Jésus a gagné. Il y a eu un combat dans les lieux célestes. Jésus a remporté la victoire. Alors non seulement il a porté tes péchés à la croix, mais il a ouvert un chemin pour ta vie, pour l'éternité, la vie éternelle. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 15 au verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, hein, nous qui sommes des êtres finis en Adam, nous allons mourir, de même aussi nous revivrons en Christ. Donc les amis, c'est une super bonne nouvelle, je vous annonce ce matin, vous allez un jour ressusciter. Vous voulez savoir ce que c'est de ressusciter, vous dites, comment ça doit être bizarre quand même. Ben, vous pourrez le vivre, ça c'est sûr. Mais sa victoire, elle nous donne aujourd'hui même déjà de la puissance. Elle nous donne la puissance de rouler les pierres dans nos vies. Vous savez, il y a une pierre qui a été roulée ce jour-là. Il y a un tas de pierres qui sont dans nos vies. Et on a la puissance maintenant de rouler ces pierres dans nos propres vies, mais dans la vie aussi de ceux qui nous entourent. Tu traverses peut-être une épreuve, tu es dans un combat. Eh bien, la victoire de Jésus ce jour-là, sur la mort, va te donner la victoire, ta victoire. Alors tu peux dire à ton voisin, sa victoire, c'est ta victoire. Si vous retenez ça ce matin, je serai très heureux. Sa victoire, c'est ma victoire. Sa victoire, c'est ta victoire. Alléluia. Alors bien sûr, pour autant que tu aies mis ta foi en Jésus, que tu aies mis ta foi en ce Dieu-là, que tu aies reconnu ton besoin de Jésus dans ta vie, sa victoire devient tienne. Si tu n'as pas encore fait cette alliance avec Jésus, alors la victoire est disponible, mais tu dois faire le choix ce matin. Peut-être tu luttes avec une dépendance. J'en vois plein qui luttent avec des dépendances. Bah, dis-toi ce matin, il a déjà battu cet ennemi pour toi. Ça ne veut pas dire que tu ne dois rien faire. Je crois que c'est juste de cultiver ta relation avec Dieu, de rechercher sa présence, de marcher par l'esprit, les choses de la chair fuiront loin de toi. Déclarer sa victoire. Parce que la mort n'a plus de droit sur ta vie. Alléluia. La mort, on l'a vu aussi quand on a parlé de l'autorité, ceux qui étaient là au cours biblique, l'ennemi essaye de prendre autorité. La mort essaye d'avoir une autorité dans ta vie. Mais alors que tu confesses Jésus, alors que tu déclares sa victoire sur toi, la mort n'a plus de droit. Elle est vaincue. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le veux? Tu veux cette victoire dans ta vie? C'est sûr qu'il y a des combats à vivre. On n'est pas épargné des combats de la vie. Recherche de travail, problèmes financiers, la maladie, la dépression. Mais c'est justement ça, le découragement essaye de nous gagner. La peur parfois, la honte. Beaucoup de gens vivent dans la honte. Puis petit à petit, la mort prend la place. Mais cette mort, elle est vaincue par Jésus-Christ qui est ressuscité. Sa victoire, c'est ta victoire. Amen. Peut-être certains vont dire, bon, ben, il est bien gentil, Luc, super, de temps en temps, il est même rigolo. Mais ça me semble un peu facile. J'espère que tu as bien entendu ce que je viens de dire. J'ai bien dit qu'il y avait des combats. Je devrais même dire, il y a un combat, c'est le combat de la vie contre la mort. C'est celui-là, votre combat. On connaît, ça c'est génial, on connaît le résultat du match. D'accord ? On sait que Jésus a remporté. Il y a 1-0 là, c'est bon. Ok ? Mais il faut jouer le match. Vous êtes dans le match, il faut être dans le stade ou dans l'arène, comme vous prenez l'exemple que vous voulez, ou la course. Il faut courir la course, dit Paul. Il faut le faire. Ça, c'est la vie réelle. Mais une chose est sûre, et c'est ça que je vais un petit peu relever ce matin, peut-être ça va vous étonner, Satan est un très mauvais perdant. Très mauvais perdant. Il ne veut pas accepter sa défaite. Il essaye coûte que coûte d'empêcher la vie de résurrection de venir dans ton cœur. Alors si on regarde les textes de la résurrection du point de vue des perdants, ce qu'on va faire ce matin, vous serez surpris de voir que même après avoir tué Jésus, ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils ne lâchent pas, c'est fou. Alors on va prendre la parole au chapitre 27 de l'évangile de Matthieu, au verset 62. On est un jour avant la résurrection. Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple « Il est ressuscité. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, alors allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. » Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Voilà, on va commencer jusque-là. Alors les pharisiens, c'est qui les pharisiens? On en parle souvent, mais j'aime bien des fois juste reclarifier ça. Les pharisiens, c'était un groupe de juifs influents dans la société, un groupe de juifs très légalistes hein, qui s'attachaient à la loi. Et puis, ils ajoutaient à la loi plein de manières de faire, de traditions, leurs traditions, etc. Et puis, après avoir fait crucifier Jésus, parce que c'est eux qui étaient derrière, c'est eux qui ont poussé à ce qu'on relâche Barabbas et non Jésus. Hein, vous vous souvenez qu'on pouvait relâcher un prisonnier lors de cette première fête de l'année, la Pâque juive. Et puis, le peuple a demandé Barabbas, mais eux étaient derrière. Il y a un peu vous savez, c'est un peu le lobby religieux. Hein, aujourd'hui, il y a plein de lobbies partout. Alors c'est un peu le lobby religieux qui poussait, mais comme une histoire un peu politique là derrière. Et puis voilà qu'ils vont encore demander qu'une garde soit là devant le tombeau. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai envie de dire, mais c'est bon là les gars. Vous avez déjà fait assez de dégâts comme ça, vous avez déjà crucifié un innocent, puis vous voulez encore mettre une garde devant son tombeau quoi. Franchement, c'est bon, il est mort là, c'est bon. Arrêtez un moment, laissez-nous faire notre deuil. Mais non, ils continuent. Et ils pensaient que les disciples allaient voler le corps, mais moi je pense qu'ils avaient tout de même, au fond de leur cœur, très peur que Jésus ressuscite. C'est sûr qu'ils avaient peur. Parce qu'ils ont vu Jésus à l'œuvre, ils ont vu ce qu'il était capable de faire. Donc ils avaient quand même cette peur, ils étaient, imaginez si c'est vraiment vrai ce qu'il a dit, si ça se passe vraiment. Et par cette image, on voit que l'ennemi ne veut pas que cette pierre soit roulée. Donc dans notre vie, dans vos vies, dans ma vie, c'est la même chose. L'ennemi ne veut pas que la vie de résurrection puisse entrer dans ton cœur. Alors c'est vrai, ces deux pauvres soldats n'ont rien pu faire contre la puissance de Dieu, on le lira tout à l'heure. Hein, c'est assez, voilà, c'est assez violent. Mais les opposants ont réussi à faire dire aux gardes quand même que le corps a été volé. Et on voit ça un tout petit peu plus loin, cette fois dans le chapitre 28, au verset 11. Quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats, hein, voilà, donc le pouvoir de l'argent, la corruption déjà, avec cette consigne, dites que ses disciples sont venus la nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Verset 15, les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ce bruit, ce mensonge de l'ennemi s'est colporté jusqu'à ce jour. Donc l'ennemi a perdu, mais voyez-vous, il arrive quand même à faire dire aux gardes que le corps a été volé. Il arrive quand même à colporter ce mensonge jusqu'à aujourd'hui. Puis j'ai envie de dire, ben voilà, jusqu'à aujourd'hui, au moment de la rédaction de cet évangile, mais non, jusqu'à aujourd'hui encore. Combien de gens autour de nous sont aveuglés? Combien de gens autour de nous n'ont pas compris que Jésus est ressuscité? Combien de gens autour de nous ne croient pas à la mort et à la résurrection de Jésus? Alors que c'est un fait historique, vrai. Alors peut-être ce matin tu es là pour la première fois, ou tu viens depuis quelques dimanches, peut-être même tu es là depuis longtemps, mais c'est bon de prendre conscience qu'il y a un combat dans notre esprit, dans ton esprit. Parce que celui qu'on appelle Satan ne veut pas, et il ne veut pas ce matin, que tu ouvres ton cœur. Et il met un tas de choses en place pour que la vie de résurrection n'arrive pas. Des tentations, puis lorsque tu cèdes à la tentation, c'est ce qui se passe, ben, nous, vous allez tous répondre bien craignamment en disant « c'est la mort ». Non, quand tu cèdes à la tentation, il y a un plaisir. C'est ça qui est pervers. C'est quand tu cèdes à la tentation, il y a un petit plaisir au fond de ton cœur. Il y a quelque chose. Ça, l'ennemi l'utilise. Il vole ton temps. Comme ça, tu n'as pas le temps de t'intéresser à la parole. Tu n'as pas le temps de passer du temps dans la présence de Dieu. Il te donne des biens matériels. Ça, tu n'as pas besoin de Dieu. Pas besoin de Dieu, tu as tout ce qu'il faut. Des souffrances. Comme ça, il te fait croire que c'est la faute de Dieu. Dieu est méchant, tu vois. Il t'a abandonné. Comment ça se fait que toi, tu sois tombé malade? C'est quand même fou, ça. Hein, tu ne mérites pas ça. C'est la faute de Dieu. La dépression. Comme ça, ça t'enlève ton espoir. Des pensées mensongères sur toi-même, sur qui tu es, ton identité. La honte, l'apitoiement. Et puis des mensonges comme on vient de le voir. Il n'a pas été ressuscité. Ses disciples ont volé le corps. La Bible, c'est pas vrai. Ou bien simplement, mais pourquoi tu viens dans une église? Franchement, ça sert à quoi que tu sois là ce matin? Puis ta vie, elle n'a aucun impact. Est-ce que déjà quelqu'un s'est converti à cause de ton témoignage? Non, alors arrête. Tu vois bien, ça ne marche pas. Tous ces genres de mensonges. Voilà les soldats qui t'empêchent de laisser la vie de Jésus entrer dans ton cœur. Alors ce matin, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que tu veux faire ce matin? Est-ce que tu veux tolérer ces gardes ou pas? Si tu dis à Jésus que tu veux sa vie de résurrection aujourd'hui, alors ces gardes, ces deux gardes, peut-être plus, ne pourront pas résister. Et on le voit donc justement dans ce texte de Matthieu, où il est dit au verset 2, « Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. » Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe quand la puissance de la résurrection est à l'œuvre. Donc si ce matin tu veux et tu proclames cette résurrection dans ta vie, cette puissance de résurrection, ces gardes, ils doivent quitter. Ils doivent partir, parce que l'ennemi est vaincu. Rien ne peut retenir sa vie de résurrection. Rien ne peut empêcher cette pierre d'être roulée dans ta vie. Alors ne laisse pas tes pensées diriger ta vie, ou tes sentiments. J'avais un super prof à l'école biblique qui disait sentiment, tu vois, sentiment. Parfois, les sentiments, hein, ils mentent. Vous voyez, attention, ne vous laissez pas diriger par des pensées comme ça, mais choisis de croire que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. Je veux aussi parler, bien sûr, aux chrétiens de longue date. N'y a-t-il pas encore des pierres qui bouchent la vie de Christ en nous? Alors c'est vrai, on peut dire la pierre principale de notre cœur, c'est bon, elle est roulée, mais il y a un tas de petits cailloux encore, qui petit à petit, Dieu, par son esprit, nous donne l'occasion d'enlever. Chaque pierre qu'on enlève nous donne davantage de place au Saint-Esprit. Chaque caillou qu'on enlève augmente notre vision, notre perspective. Ça augmente ma foi, mon amour pour Jésus, si j'enlève ces cailloux. N'y a-t-il pas encore un ou deux gardes à quelque part, une petite pièce de votre cœur, un peu cachée, un peu en retrait? Je t'invite à y renoncer ce matin, à lâcher, à laisser sa vie renouveler, restaurer la pièce intérieure, restaurer peut-être ton passé. Ne laisse aucun espace à l'ennemi. Sa victoire est ta victoire. Saisis-le ce matin. Saisis-le. Alors la victoire est pleinement effective si la pierre de ton cœur est roulée, qu'il vit en toi. Et vous allez voir, même si c'est une petite pièce, une fois que la pierre est roulée, ça change tout. Nos désirs changent. Notre compréhension de la vie change. Nos luttes et notre combat, ils prennent un sens différent. On a toujours des luttes et des combats, mais on comprend pourquoi. On sait où on va. Ta vie, elle change d'orientation. Tu vois bien au-delà que la petite réalité quotidienne. Parce que tout ça, l'ennemi essaie de nous aveugler, puis on voit juste notre petit truc. Mais quand on roule la pierre de notre cœur, il y a la lumière qui rentre. Puis là, on comprend. Il y a des autres dimensions que juste notre réalité là. Notre esprit s'illumine. On comprend les Écritures différemment. Et puis cette puissance, elle nous accompagne partout où on va. Alléluia, partout. Jésus est avec toi. Et puis on arrête de se laisser manipuler, on arrête de se laisser tenter par l'ennemi qui nous propose des plaisirs éphémères juste pour te détruire. Parce que Christ vit en toi, il a vaincu la mort, il t'a libéré de l'emprise du péché. Alléluia. Et puis on se sent aimé, on se sent plus condamné, on se sent aimé. J'ai retraduit un peu à ma façon une parole de Paul, « Tu ne peux ne rien posséder, mais te sentir comme ayant tout à cause de Christ en toi. » Amen. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est ça qui change lorsque nos pierres de nos cœurs sont enlevées, sont roulées. Amen. Vous savez ce qui m'a frappé aussi dans ces quelques versets de Matthieu 27? Les pharisiens utilisent une parole de Jésus pour justifier la présence des gardes. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à l'inverse, les femmes qui suivaient Jésus et les disciples de Jésus n'avaient pas compris cette parole. Ils n'en avaient en tout cas pas le souvenir au moment des faits, et Jésus, ou l'ange, va devoir leur rappeler ce qui avait été dit. Alors on va juste voir ces trois situations en Luc 24, versets 1 et 8. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres. Voilà, ça c'est un rajout, on n'est pas sûr que c'était dans le texte. En apportant les aromates qu'elles avaient préparés, elles découvrirent que la pierre avait été roulée devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, donc elles ne comprennent pas, elles ne savaient pas trop quoi penser, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Verset 8, « Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. » C'est fou. Vous avez oublié, pas entendu. Luc 24, verset 25, Jésus apparaît à deux disciples, on connaît bien cette histoire, sur le chemin d'Emmaüs. On dit toujours les disciples d'Emmaüs. Quand on est petit, on ne sait pas trop. Souvent, il y a des noms comme ça, comme Joseph d'Arimathée. On se dit, c'est son nom de famille. Mais non, il vient d'Arimathée. Voilà. Les disciples d'Emmaüs, verset 25, il est dit, voilà, ils parlent à Jésus, ils ne reconnaissent pas Jésus, ils racontent à Jésus ce qui s'est passé. Ils disent, mais il est où celui-là? Il n'a pas suivi la scène, il ne comprend pas. Et puis, Jésus leur dit, Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. Donc voilà, Jésus doit refaire leur catéchisme, quoi. Mais vous n'avez pas lu la Torah, non ? Vous n'avez pas compris ? Vous ne vous souvenez pas ce que moi je vous ai dit ? Puis à ses disciples, la même chose, il apparaît aux disciples juste un petit peu plus loin, verset 44. Et puis, il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les proverbes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Amen. Alors ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que l'ennemi sait même manipuler la parole pour mettre des gardes qui empêchent la vie de résurrection. Et d'ailleurs, le diable a tenté Jésus dans le désert avec des paroles semi-bibliques ou bibliques. Luc 4, verset 9 à 11, l'ennemi lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Alors vous voyez, même l'ennemi utilise la parole pour tenter Jésus. Alors certes, si on étudie un petit peu, vous allez voir que c'est hors contexte. Il utilise mal les Écritures, il n'arrive pas à comprendre vraiment, le texte, il tord la parole, mais aujourd'hui encore, pour justifier leur bêtise. J'en ai entendu à la radio là l'autre soir, mais j'ai hurlé. Il se dit prof à l'université, théologien, mais des aberrations pour justifier l'homosexualité. Vous voyez ? On peut tordre la parole. Pourtant, la parole est claire. Alors, si nous, chrétiens, nous n'avons rien à répondre, parce que Jésus a répondu par la parole, mais si nous n'avons rien à répondre, l'ennemi réussira à bloquer et à nous empêcher de manifester la vie de la résurrection. Donc nous, on a aussi une responsabilité. Puis parfois, dans nos propres vies, on est un peu comme ses disciples. Dieu nous donne des indications, il nous parle, il nous fait des promesses, puis on n'y croit pas vraiment, on n'y prête pas attention. Mais l'ennemi, lui, il sait, il entend. Il ne veut pas manquer une occasion, parce que c'est un mauvais perdant. Alors, il ne veut pas louper une occasion. Plusieurs fois, moi, le Seigneur m'a dit, tu verras, ce passage-là, ça va être un peu difficile dans ta vie. Il y aura peut-être des oppositions. Puis moi, j'ai fait, ouais, t'inquiète. Je gère, pas de souci. Et puis, arrivé dans le moment, j'étais un peu, ah bon ? J'étais surpris, vraiment ? Puis là, je me suis souvenu de l'avertissement. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt, en fait, à avoir de l'opposition. Mais l'ennemi, lui, il était là, il n'avait pas oublié. Alors, pour ce qui concerne le matin de la résurrection, j'ai envie de dire, heureusement que Jésus n'a pas compté sur les disciples pour venir rouler la pierre. Imaginez, heureusement, parce qu'il était derrière le truc, puis, et les gars, vous êtes où ? Je vous avais dit, 3 jours. Il n'y aurait eu personne. Il n'y aurait eu personne. Mais il y avait déjà 2 gardes. Alors, Dieu fait grâce. Mais ce matin, laissons-le ouvrir notre esprit, comme il est dit. Il est venu ouvrir l'esprit de ses disciples. Voilà encore un fruit de la vie de résurrection. Notre esprit est renouvelé. Le voile tombe de nos yeux. Nous pouvons saisir sa parole et l'utiliser comme il se doit, comme une épée. Ça, c'est aussi quelque chose que Satan veut éviter à tout prix, qu'on puisse se servir de la parole comme une épée. Alors, je ne vais pas être plus long ce matin. J'aimerais simplement qu'on puisse se réjouir de la résurrection, premièrement, mais accepter, saisir sa victoire pour nos propres vies. Faire attention à cet ennemi qui essaye de nous empêcher. On a besoin d'être conscient de ça, de cet ennemi qui vient nous empêcher que la vie de Christ soit en nous. Sa victoire est ta victoire. Amen.